Bonjour et bienvenue, 11h TU, midi ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans une semaine, les Allemands votent, élections législatives en Allemagne avec les conservateurs en position de favoris. Le chancelier Scholz a rendu hommage à l'opposant russe Alexei Navalny, mort en prison il y a un an, à suivre dès le début du journal. Fin ce dimanche de la conférence de Munich sur la sécurité, elle aura été largement dominée par l'Ukraine. Quelle place pour l'Ukraine et ses alliés européens s'il y a des négociations de paix? Le nouveau chef de la diplomatie américaine effectue sa première tournée au Moyen-Orient sur fond de très fragile entre Israël et le Hamas. Il est reçu actuellement par Benjamin Netanyahou. Dans ce journal aussi, la RDC, des combattants du M23 sont à Bukavu, ville dont certains habitants sont partis trouver refuge à Rusizi, ville rwandaise voisine. Reportage à suivre. Dans une semaine, donc, le 23 février, se tiendront les élections législatives anticipées en Allemagne. Les conservateurs de l'alliance CDU-CSU sont donnés largement favoris, 32% des voix selon l'un des tout derniers sondages. Donc, à en croire ces sondages, le chancelier sortant, le social-démocrate Olaf Scholz, ne sera pas reconduit. Sur le réseau X, ex-Twitter, Olaf Scholz rend hommage à Alexei Navalny, mort en prison il y a tout juste un an. Mort, je cite, parce qu'il s'est battu pour la démocratie et la liberté. En Russie. À Moscou, plusieurs centaines de personnes se sont recueillies ce matin sur la tombe de l'opposant russe. En Russie, c'est toujours un sujet très sensible. Évoquer en public l'opposant ou son organisation, le fonds de lutte contre la corruption, peut valoir de lourdes sanctions. Le journaliste et écrivain Philippe Dziadko a bien connu l'opposant. Il revient sur ce que représente aujourd'hui la figure d'Alexei Navalny.
Je pense qu'ils avaient peur d'Alexei Navalny vivant et ils en ont peur maintenant qu'il est mort. Les autorités en ont tellement peur qu'elles ont même envoyé en prison ses avocats. Des journalistes sont aussi en prison parce qu'ils ont parlé de lui. Je pense que les mots d'Alexei Navalny, « si je suis tué, cela signifie que nous sommes plus forts que jamais », ça ne sont pas que des belles paroles. C'est aussi un fait, dans le sens où son meurtre est le résultat de la peur. Mais je considère qu'Alexei Navalny ne combattait pas Poutine. Pendant une bonne partie de sa vie, il a effectivement combattu le régime de Poutine. Mais les derniers mois avant sa mort, j'ai le sentiment qu'il n'était plus question de Poutine, mais plutôt d'histoire. Il dialoguait avec l'histoire, la grande histoire. C'est pourquoi lorsque nous parlons de lui, on ressent de l'espoir, parce que notre pays traverse des années terribles. Mais si nous connaissons l'histoire, nous savons que tout change et nous croyons en l'avenir. Et en ce sens, Navalny restera l'homme de l'avenir, l'homme de l'histoire.
И мы верим в будущее. И в этом смысле Навальный человек будущего, человек истории.
Le journaliste écrivain Philippe Dziadko avec Anastasia Becchio. C'est une information qui est passée plus ou moins inaperçue, mais qui pourrait bien expliquer les tensions croissantes entre les États-Unis et les pays européens membres de l'OTAN. Des tensions très palpables tout au long de la conférence sur la sécurité qui prend fin ce dimanche à Munich. La Finlande l'affirme. L'administration américaine a envoyé peu avant la conférence un questionnaire aux pays européens. Il aurait demandé de préciser quelles garanties de sécurité il pourrait fournir à l'Ukraine. On peut y voir un préalable aux discussions de paix que Washington souhaite menée avec la Russie. Romain Le Maresquier.
C'est le président finlandais qui l'a annoncé ce samedi. Washington a bien envoyé cette semaine un document avec des questions sur les moyens que les pays européens seraient en capacité de déployer en Ukraine si d'aventure un accord était trouvé avec la Russie pour mettre fin à la guerre. Il y est question notamment de la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine, mais aussi des armements et des dispositifs de sécurité. Si le département d'État américain n'a pas souhaité commenter cette information, selon l'agence Reuters, 4 autres sources européennes confirment la réception de ce questionnaire. L'Europe, qui ne devrait pas participer aux discussions avec la Russie, comme l'a encore confirmé ce samedi le général Keith Kellogg, envoyé spécial de Trump sur ce dossier, est donc appelée à contribuer à la mise en place de garanties de sécurité en Ukraine. Les États-Unis, de leur côté, ont toujours affirmé qu'ils ne comptaient déployer aucune troupe sur le sol ukrainien. Il s'agit donc d'un sujet sensible qui sera peut-être abordé ce lundi par les dirigeants européens qui pourraient se réunir demain à Paris, si l'on en croit les déclarations des dirigeants polonais et britanniques.
Romain Le Maresquier du service international. Le ministre chinois des Affaires étrangères se rend aujourd'hui en Irlande, reçu par son homologue et par le Premier ministre Mira Martin. En un an, c'est déjà la deuxième visite d'un haut responsable chinois dans ce petit pays de 5 millions d'habitants. Pourquoi la Chine s'intéresse-t-elle à l'Irlande? L'île joue-t-elle un rôle stratégique dans la diplomatie chinoise? Correspondance à Dublin de Clémence Pénard.
Parmi les États membres de l'Union européenne, l'Irlande se démarque. C'est l'un des rares pays européens à afficher d'afficher un excédent commercial avec la Chine. L'Irlande exporte en effet une grande quantité de produits pharmaceutiques, chimiques et des semi-conducteurs vers la Chine. À cela s'ajoute une augmentation ces dernières années des investissements chinois dans le pays avec des géants TikTok, Huawei, Temu ou encore Chine qui, comme d'autres multinationales américaines auparavant, ont choisi Dublin pour établir leur siège européen, séduit par un régime fiscal plus qu'attractif. Et avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, un changement de ton s'opère en Europe. Pékin considère l'Irlande comme un allié potentiel pour rapprocher l'Union européenne de la Chine. Bien que l'Irlande ait soutenu l'année dernière l'imposition de tarifs supplémentaires sur les véhicules électriques chinois, le pays n'est pas un adversaire. En outre, l'Irlande reste militairement neutre et n'est pas membre de l'OTAN, des éléments qui comptent pour la Chine. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
RFI.
11h06 en temps universel, le secrétaire d'État Marco Rubio est à Jérusalem. Première visite d'un haut responsable de l'administration Trump en Israël. Elle est dominée par des entretiens actuellement avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. On a dans le même temps appris qu'une cargaison d'armes lourdes américaines était arrivée dans la nuit en Israël. Des bombes MK-84, ce sont des armes à fragmentation pesant près d'une tonne et pouvant traverser le béton épais et le métal. En République démocratique du Congo, le groupe M23, soutenu par l'armée rwandaise, continue son avancée au sud Kivu. Situation toujours incertaine dans la grande ville de Bukavu. Si des rebelles s'y trouvent, information confirmée de sources gouvernementales. En revanche, ces hommes n'en revendiquent pas la prise de contrôle. Rusizi est une ville rwandaise, voisine de Bukavu. Hier, des habitants de Bukavu sont venus se réfugier de l'autre côté de la frontière. Reportage à Rusizi de Lucie Mouillot.
Devant le poste de Rusizi 1, quelques habitants de Bukavu traversent la frontière malgré l'absence d'agents de l'immigration congolaise. Esther Marlène est étudiante, elle est venue se réfugier chez des proches.
Ça fait très peur, les gens ne sortent pas des maisons, ils sont enfermés à la maison. Donc je vais d'abord rester ici un peu et si les mouvements recommencent à Bukavu, je rentre.
Pour atteindre la frontière, Lisa Mouchangaloussa a traversé une ville de Bukavu presque déserte, profitant du calme apparent pour se déplacer malgré quelques tirs sporadiques entendus jusqu'à Rusizi.
Tout est fermé. Tous les commerces, les boutiques, tout et tout. On a vu comment on a massacré nos frères et sœurs de Goma. On a peur que ça se passe de la même manière parce que personne ne peut vouloir que ce soldat lui arrive.
Certains se déplacent pour la deuxième fois en quelques semaines après avoir fui Goma pour se réfugier à Bukavu. Avec un simple sac sur le dos, Jano Mounkwakonkwa cherche encore où aller.
Jusque là, je ne sais pas quelle direction je vais prendre, mais je suis sûr que je suis en train de fuir. En tout cas, c'est difficile. Ce n'est pas le moment de dire qu'au Congo, nous avons un libérateur. Non, moi, je ne le vois pas.
Lucie Mouillot, Rusizi, RFI.
Enfin en France, le vin de Bordeaux n'a pas connu pareille crise depuis plus de 30 ans. On connaît maintenant les chiffres de la récolte 2024, ce sont les pires depuis 1991. 95% des domaines viticoles sont en difficulté avec des viticulteurs surendettés. À cela, plusieurs explications, dont la concurrence internationale. Reportage dans le territoire de l'Entre-deux-Mers, au sud de Bordeaux, de Noémie Leweller.
En ce mois de février, la préparation de la récolte 2025 a déjà commencé.
On taille la vigne, on tombe les bois, c'est-à-dire on sort les sarments qui restent sur le palissage.
La zone de l'Entre-deux-Mers est réputée pour ses liquoreux en appellation Cadillac. Mais Olivier Metzinger produit aussi du vin blanc sec, du rosé et du vin rouge en côte de Bordeaux. Le vin rouge, dont la consommation a baissé de 30% en 10 ans.
Aujourd'hui, il y a vraiment des moments où c'est complètement arrêté, vous ne trouvez plus rien à vendre. C'est très tendu, on gère le jour, hein. faut pas se leurrer. Nous, on a réorganisé nos emprunts, on a diminué nos surfaces, on a arraché une partie avec des aides d'arrachage.
Olivier cultive aussi désormais des céréales et propose des prestations de services agricoles. Mais tous les vignerons ne survivent pas à ce long passage à vide. Didier Cousinet, président du collectif Viti 33.
Ça fait 15-20 ans qu'on vend le vin en dessous de 1000 euros le tonneau, alors qu'il faudrait qu'aujourd'hui on le vende pour pouvoir vivre et survivre 1400 euros. D'ici les 12 à 24 mois, je ne vois pas de reprise fulgurante. Aujourd'hui, malheureusement, il va falloir qu'il y ait pas mal de viticulteurs qui disparaissent.
Ces prévisions pessimistes se vérifient déjà. La moitié des exploitations viticoles de l'Entre-deux-Mers seraient en vente. Noémie Leweller, Bordeaux, RFI.
Une très bonne journée sur RFI. À suivre l'atelier des médias.